Chapitre 22. Aurore. Nous étions tous les deux perdus dans la forêt d'une cruelle époque de transition. Perdus dans notre solitude. Perdus dans notre amour de l'absolu. Païen mystique privé de catacombes et de dieux. Victoria Ocampo. Correspondance avec Pierre Drieu La Rochelle. Bourbon Street Bar, 2 heures plus tard. Une succession d'éclairs zébra le ciel. L'orage gronda et une pluie violente s'abattit sur l'hôtel, secouant les palmiers, faisant trembler les toitures de chaume et piquant la surface de l'eau de milliers d'éclaboussures. Depuis 1 heure, j'avais trouvé refuge sur la terrasse couverte du bar à vin, installée dans une maison de planteurs de style colonial qui rappelait certaines demeures de la Nouvelle-Orléans. Une tasse de café dans la main, j'observais les touristes qui, chassés par le déluge, regagnaient le confort de leur suite. J'avais besoin d'être seul pour recouvrer mes esprits. J'étais en colère contre moi. Furieux d'avoir été troublé par le baiser de Billy et de m'être prêté à ce simulacre dégradant dans le seul but de rendre jalouse Aurore. Nous n'avions plus 15 ans et ces gamineries n'avaient aucun sens. Je me massais les paupières et retournais à mon travail. En haut de mon écran, je regardais désespérément le curseur clignoter à gauche de ma page blanche. J'avais allumé le vieux Mac apporté par Carole avec l'espoir un peu fou que cette machine venue du passé déclencherait le processus créatif. Sur ce clavier, du temps de ma splendeur, j'avais écrit des centaines de pages, mais l'ordinateur n'était pas une baguette magique. Incapable de la moindre concentration, pas fichu d'aligner 3 mots, j'avais, en même temps que ma confiance, perdu le fil de mon histoire. L'orage rendait l'atmosphère lourde et oppressante. Immobile devant mon écran, je sentis la nausée me gagner. J'avais le tournis. Mon esprit était ailleurs, accaparé par d'autres soucis, et écrire le début du moindre chapitre me paraissait plus périlleux qu'escalader l'Himalaya. Je bus une dernière gorgée de café et me levai pour en commander une nouvelle tasse. À l'intérieur, la pièce avait des allures de bar anglais. Boiserie, marqueterie et canapé en cuir conféraient au lieu une atmosphère cosy et chaleureuse. Je m'approchai du comptoir et avisai l'impressionnante collection de bouteilles ordonnées derrière le bar d'acajou. Plutôt qu'un café, l'endroit incitait à commander un whisky ou un cognac et à le déguster en tirant sur un Havane tout en écoutant un fond sonore, un vinyle craquelé de Dean Martin. Justement, dans un coin de la pièce, quelqu'un venait de s'installer au piano pour égrener les premières notes de « As Time Goes By ». Je me retournai, m'attendant presque à tomber sur Sam, le pianiste noir américain du film Casablanca. Assise sur un tabouret en cuir, Aurore était vêtue d'un long pull en cachemire et de collants noirs ornés de motifs en dentelle. Repliée sur le côté, ses jambes fuselées se prolongeaient par des talons aiguilles grenats. Elle leva la tête vers moi tout en continuant à jouer. Ses ongles étaient peints en violet et son index gauche serti d'un camé. À son cou, je reconnus la petite croix en pierre noire qu'elle portait souvent en concert. À la différence des miens, ses doigts couraient, pleins de légèreté, sur son clavier. Avec aisance, elle passa de Casablanca à la complainte de la butte, avant d'improviser sur My Funny Valentine. Le bar était presque vide, mais les quelques clients présents la regardaient avec fascination, ensorcelés par ce qu'elle dégageait, un mélange entre le mystère de Marlène Dietrich, la séduction d'Anna Netrebko et la sensualité de Mélodie Gardot. Quant à moi, ni guéri ni désintoxiqué, j'étais victime de la même attraction. C'était si douloureux de la revoir. En me quittant, elle avait emporté tout ce qu'il y avait de solaire en moi. Mes espérances, ma confiance, ma foi en l'avenir. Elle avait asséché mon existence, la vidant de ses rires et de ses couleurs. Elle avait surtout étouffé mon cœur, lui enlevant toute possibilité d'aimer de nouveau. À présent, ma vie intérieure ressemblait à une terre brûlée, sans arbres et sans oiseaux, à jamais figée dans le froid de janvier. Je n'avais plus ni appétit, ni envie, hormis celle de me cramer quotidiennement les neurones à coups de médicaments pour diluer des souvenirs trop douloureux à affronter. J'étais tombé amoureux d'Aurore comme on chope un virus fatal et dévastateur. Je l'avais rencontré à l'aéroport de Los Angeles, dans la file d'embarquement d'un vol United Airlines à destination de Séoul. J'allais en Corée du Sud pour promouvoir mes livres, elle y allait pour jouer Prokofiev. Je l'ai aimé dès la première minute, pour un tout, pour un rien, un sourire mélancolique, un regard cristallin, une façon particulière de chasser ses cheveux derrière l'oreille, en tournant la tête comme dans un ralenti. Puis j'ai aimé chacune des inflexions de sa voix, son intelligence, son humour, le recul apparent qu'elle avait sur son physique. Par la suite, je l'ai aimé pour chacune de ses failles secrètes, pour son mal de vivre, pour ses blessures sous sa cotte de maille. Pendant quelques mois, nous connûmes un bonheur insolent qui nous projeta jusqu'aux plus hautes sphères, celles des moments suspendus, de l'excès d'oxygène et des vertiges. Je pressentais bien sûr qu'il y aurait un prix à payer. J'enseignais la littérature et j'avais retenu les mises en garde des auteurs que j'admirais. Stendhal et sa cristallisation, Tolstoï et son Anna Karénine se jetant sous un train après avoir tout sacrifié à l'aimer, Ariane et Solal, les deux amants de Belle du Seigneur, terminant leur inexorable déchéance droguée à l'éther, dans la solitude sordide d'une chambre d'hôtel. Mais la passion est comme une drogue. En connaître les effets ravageurs n'a jamais empêché personne de continuer à se détruire après avoir mis son doigt dans l'engrenage. Habité de cette conviction fausse que je n'étais vraiment moi qu'avec elle, j'avais fini par me persuader que notre amour allait perdurer et que nous réussirions là où les autres avaient échoué. Mais Aurore ne faisait pas ressortir ce qu'il y avait de meilleur en moi. Elle me renvoyait à des traits de caractère que je détestais et que je m'étais depuis longtemps employé à combattre. Une certaine possessivité, une fascination pour la beauté, la faiblesse de croire qu'une belle âme se trouve forcément derrière un visage angélique et une fierté narcissique à être associée à une femme si éblouissante, signe de la différence acquise sur les autres mâles de mon espèce. Certes, elle savait prendre de la distance par rapport à sa notoriété et prétendait n'être dupe de rien, mais la célébrité rend rarement meilleure la personnalité de ceux qui y accèdent. Elle renforce les blessures narcissiques plus qu'elle ne les apaise. J'étais conscient de tout ça. Je savais que, plus que tout, Aurore vivait dans l'angoisse de voir flétrir sa beauté et de perdre son talent artistique, les deux pouvoirs magiques que lui avait donné le ciel et qui la distinguaient des autres humains. Je savais que sa voix posée pouvait devenir friable. Je savais que derrière l'icône assurée se cachait une femme en manque de confiance, qui avait du mal à trouver un équilibre intérieur et qui soignait ses angoisses par une suractivité, courant les capitales du monde entier, programmant des dates de concert 3 ans à l'avance, enchaînant les relations brèves et les ruptures sans conséquence. Jusqu'au bout, j'avais pensé néanmoins que je pouvais être son point d'ancrage et qu'elle pourrait être le mien. Pour ça, il aurait fallu que nous nous fassions confiance. Mais elle avait par habitude intégré l'ambiguïté et la jalousie comme moyen de séduction, ce qui n'aidait pas vraiment à créer un climat serein. Notre couple avait fini par chavirer. Sans doute aurions-nous été heureux sur une île déserte, mais la vie n'est pas une île déserte. Ses amis, pseudo-intellectuels parisiens, new-yorkais ou berlinois, ne jugeaient pas à leur goût mes romans populaires, tandis que de mon côté, Milo et Carole la trouvaient snob, hautaine et égotiste. L'orage se déchaînait, obstruant les fenêtres d'un épais rideau de pluie. Dans l'ambiance feutrée et raffinée du Bourbon Street Bar, Aurore plaqua les derniers accords de la chanson « A Case of You » qu'elle venait d'interpréter d'une voix bluesy et satinée. Pendant les applaudissements, elle prit une gorgée du verre de Bordeaux posé sur le piano et remercia son auditoire en inclinant la tête. Puis elle referma l'instrument pour faire comprendre que le showcase était terminé. « Plutôt convaincant, » dis-je en m'approchant. Nora Jones a du souci à se faire si tu te lances sur ce terrain-là. » Elle me tendit son verre pour me mettre au défi. « On va voir si tu n'as pas perdu la main. » Je posai mes lèvres où elle avait mis les siennes et goûtai au breuvage. Elle avait essayé de m'initier à sa passion pour l'œnologie, mais elle m'avait quitté avant que j'aie pu en assimiler les bases. « Château Latour, 1982, » dis-je au petit bonheur la chance. Elle esquissa un sourire devant mon manque de conviction avant de rectifier. « Château Margaux, 1990. »« Moi, j'en suis toujours au Coca Light. C'est moins compliqué pour les millésimes. » Elle rit comme elle riait avant, lorsque nous nous aimions. Elle eut ce mouvement de la tête, très lent, qui lui était habituel lorsqu'elle voulait plaire, et une mèche dorée s'échappa de la pince qui retenait ses cheveux. « Comment vas-tu ? » « Bien. » répondit-elle. « Toi, par contre, On dirait que tu es resté coincé au paléolithique inférieur, remarqua-t-elle en faisant allusion à ma barbe. Et comment va ta bouche, au fait? On a pu te recoudre?
Perplexe, je fronçai les sourcils.
Recoudre quoi?
Le morceau de lèvre que t'as arraché la blonde au restaurant. C'est ta nouvelle copine?
J'éludai la question en commandant au comptoir la même chose que mademoiselle.
Elle insista.
Elle est jolie, cette fille.
Pas forcément élégante, mais jolie.
En tout cas, ça a l'air d'être volcanique entre vous.
Je contre-attaquai.
Et toi, avec ton sportif, tout se passe bien?
Ce n'est peut-être pas le couteau le plus affûté du tiroir, mais il a une vraie gueule.
En tout cas, vous allez bien ensemble.
Et c'est le grand amour, d'après ce que j'ai lu.
Tu lis ce genre de journaux à présent? Ils ont écrit tellement de bêtises sur nous que je pensais que ça t'avait vacciné.
Quant au grand amour,
allons Tom, tu sais bien que je n'y ai jamais cru.
Même avec moi?
Elle prit une nouvelle gorgée de vin et quitta son tabouret pour aller s'accouder à la fenêtre.
À part la nôtre, mes histoires n'ont jamais été intenses. Elles ont été plaisantes, mais j'ai toujours réussi à faire l'économie de la passion.
C'était l'une des choses qui nous avait séparés. Pour moi, l'amour était comme de l'oxygène. La seule chose qui donnait à la vie un peu de lustre, d'éclat et d'intensité. Pour elle, aussi magique soit-il, il n'était au bout du compte qu'illusion et imposture. Les yeux dans le vague, elle précisa sa pensée.
Les liens se font et se défont, c'est la vie. Un matin, l'un reste et l'autre part, sans qu'on en sache toujours pourquoi. Je ne peux pas tout donner à l'autre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je ne veux pas bâtir ma vie sur les sentiments, parce que les sentiments changent. Ils sont fragiles et incertains. Tu les crois profonds, et ils sont soumis à une jupe qui passe, à un sourire enjôleur. Je fais de la musique parce que la musique ne partira jamais de ma vie. J'aime les livres, parce que les livres seront toujours là. Et puis, les gens qui s'aiment pour la vie, moi, je n'en connais pas.
Parce que tu vis dans un univers narcissique, au milieu des artistes et des gens célèbres, où les attaches se rompent à la vitesse de la lumière. Pensive, elle se dirigea lentement vers la terrasse et posa son verre sur la rambarde.
Nous n'avons pas su aller au-delà de l'extase des débuts, analysa-t-elle. Nous n'avons pas su nous obstiner.
Tu n'as pas su t'obstiner, rectifiai-je avec conviction.
C'est toi qui portes la responsabilité de l'échec de notre amour.
Un dernier éclair déchira le ciel. Puis l'orage s'éloigna aussi vite qu'il était arrivé.
Moi, ce que je voulais, repris-je, c'était partager la vie avec toi. Au fond, je crois que ça n'est rien d'autre que ça, l'amour. L'envie de vivre les choses à deux, en s'enrichissant des différences de l'autre.
La grisaille commençait à se dissiper, et une trouée de ciel bleu parvint à crever les nuages.
Moi, ce que je voulais, insistai-je, c'était construire quelque chose avec toi. J'étais prêt à cet engagement, prêt à traverser les épreuves à tes côtés. Ça n'aurait pas été facile, ça ne l'est jamais, mais c'est ce dont j'avais envie, de cette quotidienneté triomphant des obstacles qui jalonnent notre existence.
Dans la pièce principale, quelqu'un s'était remis au piano. Des notes nous parvenaient d'une variation intime et sensuelle d'India Song. De loin, je vis arriver Raphaël Barros, une planche de surf sous le bras. Pour éviter de lui être présenté, je m'engageai dans les escaliers de bois. Mais Aurore me retint par le poignet.
Je sais tout ça, Tom. Je sais que rien n'est jamais acquis, que rien n'est jamais promis.
Elle avait dans la voix un côté émouvant et fragile. Le vernis de la femme fatale était en train de se craqueler.
Je sais que pour mériter l'amour, il faut se donner corps et âme et prendre le risque de tout perdre. Mais je n'étais pas prête à le faire et je ne le suis toujours pas aujourd'hui.
Je me libérai de son étreinte pour descendre les quelques marches. Elle ajouta dans mon dos :
Je te demande pardon si je t'ai fait croire le contraire.